Bien. Bonjour tout le monde, je suis Mounir Sadek, je suis en classe 5e. J'ai le plaisir ce lundi de recevoir Madame Leila Rostom qui va nous parler de sa carrière de présentatrice à la télévision égyptienne. Madame Rostom est la célèbre présentatrice des années 60 à la télévision égyptienne. Bonjour Madame.
Bonjour Mounir.
Pouvez-vous nous présenter, quelles sont vos origines, où avez-vous étudié, poursuivi vos études?
Bon, je suis égyptienne. Et mes origines, mes très anciennes origines, viennent d'Istanbul, de la Turquie. Mais je ne parle pas le turc. Et j'ai été seulement une fois dans ma vie à Istanbul, juste comme touriste. Maintenant, j'ai été élevée en Égypte. Et j'étais dans les écoles qu'on appelle... religieuse, on appelle ça les écoles où il n'y avait que des religieuses qui nous enseignaient, les sœurs et les mères. Et les sœurs, bon, chez eux, c'était l'ordre, la politesse, le silence, mademoiselle, le silence, et la discipline. Ça, c'était la constitution de notre éducation. C'était pas facile de garder tout ça en tête, ordre, politesse, silence et discipline.
Bien sûr.
Autrement, il fallait aussi parler français. Entre 7h30 quand la cloche sonne le matin, et puis entre 4h30 où la dernière cloche sonne, si on disait un mot d'arabe, on avait une très sévère punition. On était gardé pendant une heure pour écrire une phrase, une seule phrase, 100 fois. Laquelle, s'il vous plaît? Je ne parlerai plus l'arabe. Je ne parlerai plus l'arabe. Je ne parlerai plus l'arabe. Vous voyez un peu? Ah. Et si votre main cède et commence à tomber à droite un peu, ah, faites attention, hein. Vous allez recommencer si c'est bien, c'est du gribouillage, ça. Vous allez recommencer, alors.
C'était bien sévère.
C'était de la discipline. Heureusement, je trouve le bon côté maintenant, c'est que j'ai jamais oublié la langue française. Je l'aime beaucoup. C'est une langue très riche. Extraordinairement riche. Elle est faite pour les gens qui veulent apprendre et qui sont certainement qui ont beaucoup d'imagination. Parce que c'est vrai que la langue arabe aussi est très intéressante, mais le français, j'ai toujours estimé que le français avait beaucoup plus de vocabulaire que n'importe quelle autre langue. Ensuite, à la maison, c'était aussi de la discipline et de l'ordre. Donc j'ai eu une jeunesse protégée. Je ne peux pas dire qu'on nous a laissé faire ce qu'on voulait comme maintenant, mais protégée, on avait toujours quelqu'un avec nous. Nous n'étions jamais seuls. C'est-à-dire, les mamans ne travaillaient pas à l'époque. Alors, les mamans étaient là pour surveiller les enfants tout le temps. Et heureusement, moi, je suis très heureuse d'avoir eu ce genre de discipline parce que ça m'a beaucoup servi dans la vie.
D'accord. Comment êtes-vous devenue présentatrice, exactement?
Ah oui. Ah bon, là, ça c'était... tu as dit 60, moi j'aimerais dire 70. J'aurais dit 70. Hein. Ça va. Pour toi, tu sais, tu connais l'histoire de moi, ta maman et toi. Et tout le monde a 29 ans et demi. Dans notre famille, on ne dépasse jamais les 29 ans et demi. Et c'est génétique. Alors, un jour, tu sais... Tu m'as bien amusé le jour où tu as été dire à ta maman « Mais mamie, quel âge as-tu ? » Elle t'a dit « 37 ans ». J'ai dit « Mais écoute, c'est la première fois que j'entends dire qu'une maman est plus jeune que son enfant. »
Non, ça c'est Fouad.
C'est Fouad, c'est pire. Il n'avait que 6 ans et il a sorti cela. Il a bien calculé. Ah, très bien calculé, intelligent.
Qui ou quoi vous avez inspiré à devenir présentatrice?
Personne ne m'a inspirée. Moi, j'ai été d'abord... j'ai étudié à l'université américaine après avoir terminé mon bac français dans les écoles qu'on appelle les sœurs et les mamans, les mères. Je sais pas, elles ont un nom, ces écoles. Mais ce sont des écoles qui vous forment intellectuellement, à part le fait qu'il y avait beaucoup de livres à ne pas lire. Et alors, on allait chercher ces livres ailleurs. Mais ils n'étaient pas dans la bibliothèque. tout était géré. Nous étions gérés. Alors, il y avait cette discipline. Et je voulais être journaliste parce que j'aime écrire. Alors là, un jour, j'entends dire que la télévision va commencer. C'était en 1980. Et je me suis dit, au fond, c'est du journalisme aussi. Je me suis trouvé une excuse parce que je vais certainement impressionner les gens s'ils me voient en réalité, plus que s'ils n'entendent que ma voix à la radio ou bien ils entendent, ils lisent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent aussi à l'époque. Et j'ai été me présenter. Il y avait un examen très sérieux. Maintenant, c'est moins sérieux. Mais c'était la BBC qui nous a... La BBC, British Broadcasting. C'est très grave, très sérieux. Et il fallait connaître au moins une langue étrangère. On vous donne un papier, on vous dit... ça, c'est écrit en arabe, traduisez en anglais, traduisez en français. Et vice-versa. Bon, nous sommes maintenant, nous allons sortir sur le balcon, tu connais, c'est la télévision égyptienne, c'est la RTF, la radio-télévision française, c'est copié. Alors là, vous êtes sur le balcon et vous voyez des jeunes gens qui arrivent avec... ils ont l'air jeunes, mais ils sont en train de dire quelque chose, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Alors, vous allez écouter et nous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, j'écoute et je raconte. Ça, c'est pas préparé. C'est ce qu'on appelle une émission étrangère, c'est-à-dire en dehors des studios. C'est-à-dire, on vous dit maintenant, demain, vous allez à l'opéra parce qu'il y a, je ne sais plus qui, un personnage important.
Donc, on vous prévient, à la dernière minute.
Ouais, c'est toujours comme ça, surtout si c'est un homme d'État, un chef d'État qui va être là. Alors, on vous prévient là, une demi-heure avant, pas plus. Alors, toujours on m'imposait des tâches difficiles. Heureusement, parce que j'ai été dans des écoles françaises, élevées par les sœurs et les religieuses, ce qui faisait que je travaillais dur et je prenais les choses au sérieux. Voilà. Alors, une fois, on me dit, bon, alors ça, c'est le ministre qui me demande. Son secrétaire me téléphone à la maison. Madame Loss, s'il vous plaît, son Excellence, Monsieur le Ministre, veut vous voir demain à 11h au bureau, chez nous, à Maspero. Je dis, ça y est, on est en train de... On va me renvoyer, ça, c'est certain. Je suis très contente, je vais être envoyée, parce qu'on est mal, on est très mal payé à la télévision, à l'époque. Alors je vais, ce monsieur se lève. Il me voyait à la télévision, comme tout le monde, mais c'est la première fois qu'il me voit comme ça, face à face. Alors il se lève derrière le bureau, il va me retrouver à mi-chemin. Ce qui est déjà un geste élégant. Il ne me considère pas l'esclave qui travaille chez moi. Il me dit, voilà, ça c'est un dossier à propos des Allemands qui ont quitté l'Allemagne après la guerre et qui faisaient des recherches sur les anatomiques. Mais non. C'est-à-dire, c'est pas la bombe atomique, mais c'est ce qui précède la formation de bombe atomique. Ils sont très avancés et ils sont recherchés par la Gestapo, ils sont recherchés par tout le monde. Ils sont là parce que Nasser les garde chez lui. Donc il a un projet en tête. Faites attention, lisez bien tout cela. Et vous allez faire l'interview demain à 4h de l'après-midi. J'ai pas dormi ce soir-là. Et j'ai lu tout cela. Je vais voir, je dis, Excellence, est-ce que je vais voir ces messieurs face à face? Ils sont trois, et l'un d'eux avait sa fille avec lui, parce qu'on l'a enlevé. On lui a enlevé, ravi sa fille, pendant qu'il sortait de l'école. On l'a enlevé, et puis, soi-disant, les Égyptiens ont pu la récupérer. Donc elle sera là pour raconter ce côté de l'événement. Vous pouvez, je ne connais pas l'allemand. Il m'a dit, vous parlez l'anglais et vous parlez français. Vous allez parler le français avec la jeune fille et l'anglais avec ces Allemands qui parlent bien l'anglais.
Donc,
ça a été très bien fait, tu sais. On en a souvent parlé de cette interview. Et c'est malheureux que tous ces ces programmes ont été enlevés ou endommagés ou brûlés pendant la guerre, pas cette guerre, cette dernière guerre, mais pendant plusieurs guerres que nous avons faites. Ils ne se sont pas occupés de garder tout ça comme référence. C'est bien dommage. C'est bien dommage, oui. Mais je te dis, je n'ai jamais le trac, Monsieur Mounir. Je n'ai jamais le trac. C'est ça qui est extraordinaire. Je peux avoir beaucoup de soucis avant. Mais quand je suis plongée dans le travail, ça y est, les choses vont très bien.
Donc, quelles sont vos interviews les plus marquantes au long de votre carrière?
Ça, c'est certainement ce que je viens de te raconter, et d'autres, beaucoup d'autres. J'avais un programme qui... C'est un document que je faisais pour les gens très célèbres. Mais pas nécessairement les gens du cinéma. Non, non, non. Il y en avait pas parorfois comme Omar Sharif, par exemple, et Fatem Haman. Bon, ce sont des amis, ça, c'est une autre question. Mais, et il y avait aussi... chaque été, au mois d'août, on envoyait des invitations pour... Vraiment, on faisait du beau travail à ce moment-là. Beaucoup, deux ou trois de ces grandes vedettes de Hollywood qu'on voyait au cinéma, qu'on n'avait jamais connues. Et de nouveau, c'est Leila Armstrong qui est exposée à ce genre de... Toujours, il n'y avait pas de bonus à la fin du mois, hein, crois-moi. C'est pour cela que j'ai quitté. Je travaillais dur. Mais il y avait des remerciements. Le public appréciait. Et pour le journaliste, qu'il soit dans le journal ou à la télévision, il apprécie le fait que les gens l'aiment. Et cela, parfois, est plus important que recevoir des chèques, de gros chèques. Parce que les gens vous arrêtent dans la rue, ils vous arrêtent partout. Et les jeunes femmes se coiffaient comme moi. Elles adoptaient mon style. Je sentais que j'étais un personnage. Et finalement, je ne voulais être que moi-même. Je ne voulais pas donner l'impression de faire la grande vedette. Je n'ai jamais pensé que j'étais vedette jusqu'à présent. Même quand on me présente jusqu'à présent, grand-mère comme je suis, de ce petit garçon qui est devant moi, on me dit, la grande vedette, comme toi tu l'as dit. Moi, je refuse d'être vedette. Je suis une journaliste. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai eu un autre interview avec... 007, Roger Moore. Et c'était très amusant. Parce que c'est un garçon qui n'arrêtait pas de boire de la bière du matin au soir. Et il portait des chemises déchirées. Alors, le premier jour, je vais chez lui. Je lui dis, Mr. Roger, you have to wear a proper shirt. You can wear what you want, but it mustn't be torn out. It doesn't work this way. I'm on vacation, Mr. Austin. I'm on vacation. Je suis en vacances. Il est très gâté. C'est un garçon gâté. Vraiment. Ouais, c'est pas possible. Là. C'est pas possible ce qu'il a fait. Il s'est acheté un très beau cheval arabe, blanc. Cheval superbe. Créature. Et qu'il a envoyé avec lui en Amérique. Pas sur un avion, sur un bateau. Il était simple, en fait. Et il n'était pas violent, comme dans les films. Le 007 était un homme très simple, très gentil. J'ai connu d'autres aussi, mais dont je ne me rappelle plus. C'est des histoires qui sont passées il y a déjà 35-40 ans, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi les grandes, fortes têtes égyptiennes, comme Taha Hussein, comme... des gens comme ça, les vrais intellectuels, parce qu'on parlait à ce moment-là de changer l'attitude de l'Égyptien moyen à l'égard de tout ce qui est étranger.
Pouvez-vous nous parler à propos de cette interview, cette fameuse interview avec Taha Hussein, s'il vous plaît?
Ah oui, Taha Hussein, il y avait autour de nous 11 journalistes, les top, les plus grands journalistes d'Égypte. Donc, et moi, je devais quand même savoir mes limites. Parce que là, il y avait le grand Taha Hussein, et qui est aveugle, comme nous savons, il n'a jamais lu, et il a étudié en France, et il est devenu docteur, S-lettres, il a épousé une Française, qu'il a accepté tel qu'il est, un homme aveugle, et très simple, et qui vient d'un milieu de paysans français. Il a fait des choses extraordinaires, il a écrit des livres extraordinaires. Alors, Moi, je dois savoir mes limites aussi. Ça, c'est très important que les gens sachent leurs limites. Alors, je ne pouvais pas parler seule. Il fallait faire parler tout ce monde autour de moi. Ça, c'est un jugement qu'on doit avoir de la situation. C'est pas comme quand vous parlez à Roger Moore, qui adore les chemises déchirées et tout ça, qui avait sa bière à côté de lui. Je lui dis, on peut pas vous filmer avec une bière. Nous sommes en Égypte. Les gens ici n'aiment pas la boisson. Ah ben, mais moi, je l'aime. Je ne peux pas parler sans des choses comme ça. Non. Alors, c'est un garçon qui n'a pas de discipline, Roger Moore. Aucune discipline. J'ai connu beaucoup d'autres personnes qui étaient plus importantes que lui. Regarde, par exemple, Omar Sharif se tient très bien devant la presse. Il ne fait pas de bêtises. Non, non. Lui, c'est un cas spécial. Tahar Hussein a dit des choses intéressantes et des choses qui n'ont pas plu à beaucoup de gens. Mais lui, il avait son caractère et les gens le respectaient pour ce qu'il était. C'était un vrai génie. Et sa femme française était là, derrière le rideau. Elle nous a regardés tout le temps. Et elle m'a regardé méchamment. Vous fatiguez mon mari, il est vieux. Il n'arrive plus à marcher. Et ça suffit. Et elle me faisait des gestes, comme quoi il faut arrêter. Et moi, je faisais attention. Je semblais ne pas voir ni entendre, parce que je ne pouvais pas arrêter, parce que madame Tarassine a peur pour son mari. Et c'était une heure, sans arrêt. Mais ce n'était pas direct, on filmait. C'était filmé.
Comment l'avez-vous persuadé, étant donné que c'était son seul interview de toute sa vie?
Il a toujours refusé de voir la presse ni de parler à la télévision, quand il eut la télévision. Personne. Mais je crois que c'était sa femme qui l'a convaincu. Parce que j'ai été la voir et il était là. Et elle m'a parlé. Et elle a compris que je n'allais pas faire du tort à son mari, d'aucune manière. Elle a compris aussi que j'étais de culture française. Donc peut-être ça a influencé un peu le côté mental. Elle se sentait très supérieure. Et elle pense avoir fait un miracle d'avoir épousé ce pauvre paysan aveugle égyptien qui est allé en France et qui a fait son doctorat. Alors, aussi, ça montre la qualité de la personne, n'est-ce pas? Et elle a été à côté de lui et elle l'a servi toute sa vie. Et juste après sa mort, elle a quitté, elle est rentrée en France. Ils ont eu un garçon et une fille qui sont toujours en France aussi. Mais c'est pas moi qui l'a persuadé, c'était sa femme. Je l'ai su plus tard. Il a dit, mais moi, je n'ai jamais... Je déteste la presse. Je n'aime pas la presse. Et surtout la télévision. Alors que ce soit Leïla Rostom ou autre, moi, je ne veux pas. Elle l'a convaincu. Elle lui a dit, ce sera dans ton avantage. Et tu dois avoir un registre historique. Il faut que les nouvelles générations qui t'ont jamais vu et qui peut-être ne liront jamais tes livres, voient cela. Et c'est effectivement la seule chose qu'ils ont gardée. J'ai fait des centaines d'interviews avec des gens très intéressants. Rien ne reste, il y a 4 seulement, dont Tahar Hussein. Nous n'avons pas de véritable bibliothèque, filmothèque dans le monde arabe. Mais quand j'étais au Koweït filmée pour la télévision koweïtienne, j'étais très étonnée. On m'a fait rentrer dans une chambre comme celle-là. Et là où il y avait Negmak El Moufaddal, Leïla Rostom, tous mes programmes étaient là, tous classés comme ça, classés. Et moi j'avais honte parce qu'on les avait perdus en Égypte. Alors à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est qu'ils l'ont vendu probablement. Probablement, ils l'ont vendu. Mais ils auraient pu garder quand même une ou deux.
Je sais que vous êtes allé dans plusieurs écoles, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion? Laquelle était la meilleure?
En tant qu'enfant, c'est-à-dire à l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai été chez les Dames de Sion, Alexandrie, et puis j'étais au collège de la Sainte-Famille, à Mansoura. Ensuite, c'est les deux écoles que j'ai connues françaises. Et les deux, c'était des écoles de religieuses, n'est-ce pas? Et ensuite, l'université américaine du Caire, et aussi. Ensuite, c'était le Northwestern University à Evanston, Illinois. J'ai reçu une bourse. Et pendant 2 ans, j'ai fait mon master. Donc, moi, je sers là-bas. Donc, en tout et pour tout, c'est 4. Ouais. Et c'est français. Le français, c'est la base. Ensuite, ça a été... Ah, j'ai oublié l'English Girls College aussi, Alexandrie. English Girls College. C'est une école d'élite très, très spéciale. Il y avait plus de sport que d'études. C'est pour cela que j'ai tellement aimé. Et puis l'université américaine, et voilà, Northwestern, et ça y est.
Et donc, laquelle avez-vous préféré le plus?
Je ne peux pas dire préféré. Hein. C'est-à-dire, je dois beaucoup à ces écoles françaises qui nous ont formés, ça c'est certain, qui nous ont appris la langue française. Et j'ai apprécié le côté laisser-aller de l'école anglaise. Surtout en sortant de cette discipline rigide des religieuses. Et j'ai vu toutes ces filles qui rentraient et sortaient de la classe, sans rang, sans rien. Elles me trouvent là, attendant le rang. Qu'est-ce que vous attendez ici? J'ai le rang pour qu'on conforme les rangs. Mais quel rang? Le tennis, j'ai passé mon temps au tennis. Mais j'ai appris l'anglais alors, le vrai anglais. L'anglais pur, pas l'américain.
British.
Very British. Mais j'ai perdu cela. Maintenant, je parle américain, comme tout le monde.
Bon,
Et j'ai pas oublié l'arabe.
Bon, bien sûr.
Donc, j'ai 3 langues. Voilà.
Merci, madame. C'est un plaisir de vous rencontrer. Un grand merci pour être venue.
C'est moi qui vous remercie. Et ça m'a fait grand plaisir de voir le nouveau lycée du Caire. Et bonne chance pour vous et pour vos élèves, pour vos amis.